voulons parler ce matin de l'alcoolisme avec un médicament présenté comme miracle contre l'alcoolisme. Ce médicament, c'est le baclofène, un médicament auquel vous consacrez un documentaire, Marie-Pierre Jory, Alcoolisme, la promesse du baclofène, qui sera diffusé sur Arte le vendredi 31 octobre prochain à 22h20. À côté de vous se trouve Philippe Jory, bonjour.
Bonjour.
Philippe Jory, je précise d'abord que vous n'avez pas de lien de parenté avec Marie-Pierre Jory. Vous êtes médecin généraliste et addictologue, professeur à l'université Paris-Descartes et coordinateur de l'étude Bacleville. On va vous entendre tout à l'heure sur le baclofène. Bertrand Dalpaz, vous êtes alcoolologue, directeur de recherche à l'INSERM. Et enfin Alain Calès, bonjour. Vous êtes président du comité Île-de-France de Vie Libre, un mouvement laïque d'entraide d'anciens buveurs. Et vous avez publié Éclat de verre, vrai faux journal d'un buveur aux éditions Chloé Delis. Philippe Jory, s'il fallait présenter rapidement le baclofène, que diriez-vous ?
D'abord, je dirais que ce n'est pas un médicament miracle, parce que en tant que médecin, je laisserai le mot miracle à la religion.
Au journaliste.
À la religion. Le miracle, c'est là. Voilà. Et donc, le mot miracle me dérange. Donc, c'est un médicament qui, moi, je trouve, est assez bluffant par rapport à l'alcool et qui est un médicament qui bloque, on va dire, les compulsions, les pulsions à boire. C'est un médicament qui va permettre, je pense, d'apporter un plus au niveau de la prise en charge de ces patients qui sont en grande souffrance.
Comment ça marche ?
Ah ben ça marche, c'est-à-dire que ça marche au niveau des récepteurs cérébraux, donc c'est un peu compliqué. Et je ne suis pas un grand spécialiste des récepteurs GABA. Je pense qu'on pourra peut-être demander à mon ami Nalpaz.
Bertrand Nalpaz, comment ça fonctionne ?
Eh bien, donc le baclofène agit sur donc des récepteurs donc dits GABA. Il y a GABA A et GABA B. Donc ça agit sur les récepteurs GABA B. Donc pour faire simple, je dirais que les récepteurs GABA sont en gros des ralentisseurs. Donc ça veut dire que le baclofène va agir sur, je dirais, les phénomènes de récompense qui vont être amoindris et dont on va avoir finalement, grâce à ce produit, moins besoin.
Marie-Pierre Jory, dans le documentaire que vous avez réalisé, qui sera diffusé donc sur Arte vendredi prochain, vous avez suivi des personnes qui cherchaient à en finir avec leur alcoolisme et qui prenaient du baclofène avec des résultats contrastés, dira-t-on.
En fait, moi, j'ai suivi l'étude, l'essai clinique du docteur Philippe Jory. Donc, c'est une étude donc, qui regroupait 320 participants. Et donc, ils ne savaient pas s'ils prenaient le médicament ou le placebo pendant l'année.
Une étude en double aveugle avec donc différents types de réactions pour ces alcooliques qui cherchaient à en finir avec leur alcoolisme. On va essayer de comprendre comment fonctionne l'alcoolisme et comment le baclofène peut essayer donc de remédier à cette addiction. Mais tout d'abord, on écoute Ben, l'oncle Soul. Ben oui, l'oncle Soul, vous savez, Thierry Dupin et Stéphanie Texier sont facétieux à coups de rêve. L'alcoolisme, la promesse du baclofène, c'est un thème du documentaire qui sera diffusé demain vendredi sur Arte, un documentaire réalisé par Marie-Pierre Jory qui est des nôtres, dont voici un extrait.
Quand je travaillais avant, on mangeait à 5 ou 6 au restaurant tous les jours. Et puis bon, il y avait peut-être 5 ou 6 tournées qui tombaient. Et le soir, en sortant, on se retrouvait pour boire un demi. Je rentre à la maison, je buvais l'apéro et du vin. Donc vous voyez que c'était quand même un maximum.
Donc à cette époque, donc, vous pouviez dire que vous étiez un peu alcoolique quand même.
Ah oui, mais on ne se sent pas alcoolique.
Bien sûr.
On ne se sent pas alcoolique. Je suis désolé, j'ai demandé au voisin de me tenir la porte pour mettre la clé dans la serrure.
Avant de parler du médicament, on va parler de la maladie en compagnie de Philippe Jory, qui est médecin généraliste et addictologue, de Bertrand Nalpaz, qui est alcoologue, et d'Alain Calès, qui est président du comité régional Île-de-France de Vie Libre, mouvement laïque d'entraide d'anciens buveurs. Vous avez notamment publié Éclat de verre, vrai faux journal d'un buveur, où vous racontez vos souvenirs. Comment commence-t-on à boire, Alain Calès ?
C'est un vaste sujet, c'est un glissement progressif. Au début, l'alcool est un ami, vous facilite la vie sociale, il vous permet de draguer, tout ce que vous voulez. C'est un facilitateur et puis progressivement, l'alcool prend la main sur votre vie et vous devenez dépendant. À partir du moment où vous devenez dépendant, vous vous désintégrez, socialement, affectivement, économiquement, professionnellement, etc. Et petit à petit, vous êtes en perte. Alors, il y a des degrés qui sont divers. Moi, dans mon cas, j'ai quasiment tout perdu, conjoint, enfant, etc. Les degrés sont divers, mais ce parcours est strictement identique et tout tourne autour du passage du moment où l'alcool devient absolument indispensable. C'est vraiment la dépendance. Pour ma part, je n'avais ni jour ni nuit. Je me réveillais pour recharger la locomotive de charbon et continuer quelques heures comme ça.
Ça fait 20 ans, je crois, que vous avez arrêté de boire, Alain Calès. Aujourd'hui, vous ne touchez plus à une goutte d'alcool ou bien vous avez une consommation modérée ?
Oui, c'est une affaire de vie et de mort pour moi. L'affaire est claire. Quand j'ai arrêté, on ne me donnait pas un mois à vivre. Hein. Je ne vais pas vous décrire. Voilà. Je connais tous les services d'urgence du Sud.
Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Vous êtes en face de moi.
En bonne santé, ça va, j'ai mis 12 points sur le permis. J'oubliais votre question. Par contre, ça m'a bouffé la mémoire.
Aujourd'hui, est-ce que vous touchez encore à une goutte d'alcool ou bien est-ce que vous êtes complètement abstinent ?
Non, pas du tout. Pour moi, c'est une question vraiment de vie et de mort. Mais par contre, je n'ai aucune attirance... Rien, j'ai aucun manque par rapport à l'alcool. J'ai de l'alcool chez moi, je choisis des bonnes bouteilles pour mes amis. Je les ouvre, je les sens, parce que j'aime bien quand même sentir et reconnaître une bonne bouteille à l'odeur. Voilà, d'autres par contre n'ont absolument pas d'alcool chez eux, parce qu'ils se sentent peut-être un petit peu plus en faiblesse. Voilà, moi, je suis très dur là-dessus. C'est le seul moment de ma vie où je m'autorise à être stalinien, c'est vis-à-vis de l'alcool. Zéro alcool à consommer.
Philippe Jory, le témoignage d'Alain Calès qu'on vient d'entendre, est-il représentatif de ces personnes qui boivent de trop, que vous recevez pour qu'elles cessent de boire? A-t-on affaire à des gens qui glissent? On parle de parcours d'alcoolisme en médecine.
Oui, alors c'est une partie en effet représentative d'un certain nombre de patients qui ont des problèmes avec l'alcool. J'aime pas beaucoup le mot alcoolique parce que pour moi c'est pas une identité. C'est des patients qui ont des problèmes avec l'alcool. Je crois qu'il faut d'abord dire que l'alcool est un médicament. C'est un mauvais médicament parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, mais c'est un médicament qui a beaucoup de fonctions. Et bon voilà, notre ami là qui est en face de moi, pour lui la fonction c'était peut-être la fonction désinhibitrice de l'alcool. Pour d'autres c'est une fonction anxiolytique. Pour d'autres c'est une fonction défense, de ne pas affronter la réalité. Donc chaque parcours est très différent. Et on l'a montré dans le Bacleville, l'étude que je coordonne, dont on n'a pas encore les résultats. Mais par contre, on a le profil des patients, sans savoir s'ils sont sous baclofène ou pas. Ce que je veux dire, c'est quand vous avez dit double aveugle,
ça veut dire... Oui, j'ai dit que l'étude qui est menée dans votre service sur le baclofène était une étude en double aveugle, c'est-à-dire...
Alors double aveugle, ça veut dire que le médecin ne sait pas ce qu'il donne et le patient ne sait pas ce qu'il prend. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de suggestion. Bon. Alors après, si vous voulez, donc on n'a pas les résultats actuellement, les aura je pense à la fin de l'année. Les résultats qu'on peut avoir, c'est sur le parcours des patients, sur ces 320 patients, qu'ils soient sous baclofène ou sous placebo. Et ce parcours, c'est surprenant parce que aucun parcours n'est similaire. Et on ne peut pas sur 320 en tout cas, dire qu'il y a un parcours typique.
Ça veut dire qu'on ne peut pas définir ce qu'est un alcoolique type. En revanche, dans le documentaire de Marie-Pierre Jory, on voit une souris qui est modifiée génétiquement dans son comportement par rapport à l'alcool. Et cependant, dans ce documentaire, il est bien répété que l'alcoolisme n'est pas héréditaire. Bertrand Dalpaz, vous qui êtes alcoologue.
Et tout à fait, je vais abonder dans ce qu'a dit Philippe Jory et Alain Calès. Donc, dans le sens où il y a trois composantes dans l'addiction. Là, on parle de l'addiction à l'alcool, mais ça peut être les autres addictions. Il y a l'individu, le produit et le milieu. Si on parle de l'individu, effectivement, nous ne sommes pas tous égaux devant le produit. Ce qu'a dit Philippe Jory, donc, il y a pour certains, l'alcool c'est le médicament, pour d'autres c'est le désinhibiteur. Ça montre bien que on n'a pas la même réaction face au produit. Il y a des personnes chez qui l'alcool est tout à fait dérangeant et qui ne vont pas en prendre parce que ça leur procure des sensations négatives. Du point de vue, donc ça, derrière les réactions qu'on a, il y a effectivement des gènes. Vouloir réduire la problématique de l'alcool et de l'addiction à la génétique, c'est une erreur fondamentale. Il ne faut pas croire qu'un jour, on identifiera le gène responsable de l'alcoolisme. On a maintenant de multiples études qui ont été faites avec les techniques les plus élaborées donc, qui existent à ce jour, et on n'a pas trouvé de profil. Ce qu'on accepte aujourd'hui, c'est l'idée que l'alcoolisme ou la sensibilité, je dirais, aux produits psychoactifs, c'est multigénique, c'est-à-dire que c'est une espèce de mosaïque de toutes petites modifications sur des dizaines, voire des centaines de gènes, hein, des modifications qui sont tout à fait variables, qui se combinent d'une certaine façon, mais il y en a tellement qu'on n'arrivera pas à les identifier.
Nous avons Marie au 01 45 24 7000. Bonjour Marie, nous vous écoutons.
Bonjour, je suis fille d'alcoolique et j'ai beaucoup souffert dans mon enfance à cause de la honte que ça me procurait. Et ce que je voulais dire, c'est que je n'ai rien absolument contre le baclofène. Je trouve que tout ce qui peut changer cette maladie est formidable. Mais moi, j'ai adhéré à une association qui s'appelle Al-Anon et qui sont des réunions pour des familles d'alcooliques, comme les alcooliques anonymes sont des réunions pour les alcooliques. Et donc moi, j'ai appris dans ces réunions à avoir une autre philosophie de vie, une autre façon de penser, qui m'a permis de tenir debout, de changer complètement d'attitude, d'arrêter d'être une victime, de regarder mon père comme un ivrogne. Je l'ai regardé d'une autre façon, comme quelqu'un qui était dépressif et qui souffrait et qui buvait pour arrêter de souffrir.
Et là, vous-même, vous avez quel comportement avec l'alcool, Marie ?
Moi, pour le moment, je n'en ai aucun. C'est-à-dire que j'achète du bon vin. Quand j'ai des amis, je leur sers du bon vin. J'aime bien le bon vin, mais pas de façon excessive.
Merci, comme Marie, pour votre témoignage. Philippe Jory, une réaction au témoignage de Marie ?
Je respecte tout à fait les associations, que ce soit Vie Libre, Alcoolique Anonyme ou les autres. Je pense que il faut être dans le respect. Il faut aussi accepter qu'il y a beaucoup d'échecs dans ces associations, comme il y a des échecs avec le baclofène. Donc le plus on a de thérapeutiques à proposer, et le mieux c'est. Donc ça me semble important d'entendre ça. Le baclofène, je crois qu'il faut quand même le dire aussi, c'est vrai que c'est la première molécule, le premier médicament qui permet de boire. Et donc ça dérange beaucoup. Mais je respecte tout à fait l'abstinence des associations. Ça me semble important de respecter.
Dans le témoignage de Marie, il y avait aussi la notion de honte qui est portée sur l'alcoolique et sa famille. Alain Calès, vous qui avez raconté dans Éclat de verre, vrai faux journal d'un buveur, ce que ressent un buveur.
Alors, quand il n'est pas totalement anesthésié, non, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de honte, mais c'est le regard de la société qui dit de l'alcoolique que c'est un être veule. Bon, finalement, quand il s'arrête...
Sans volonté.
Alors que justement, quand on est sous dépendance, la caractéristique, c'est que la volonté est annihilée en dehors de soi-même. Et il faut énormément de courage pour s'en sortir, c'est plutôt ce que je veux dire. Tout comme ne pas boire, on peut être heureux. Il y a des milliards d'hommes qui sont heureux en ne buvant pas. Il ne faut pas non plus voir des systèmes de conséquences un petit peu partout. Et tout à l'heure, on a présenté l'alcoolique comme un être à multiples facettes. Certainement, il est à multiples facettes avec des connotations plus ou moins importantes. Mais il y a quelque chose qui est au cœur de l'alcoolique, c'est la souffrance. Et c'est ce qui est traité dans les groupes de parole, c'est que un alcoolique est en train de boire, a en face de lui d'autres gens qui ont connu le parcours. Ils sont experts de leur peau, si vous voulez. Et c'est cette expertise qui passe et qui permet à celui qui est en situation de boire qu'il est possible de s'en sortir. Il a devant lui quelqu'un, vous-même tout à l'heure vous me présentez comme ça, quelqu'un qui s'en est sorti et qui connaît le même parcours, l'humiliation, la désintégration. Voilà.
C'est important, effectivement, c'est de dire que vous en êtes sorti, que vous avez l'air
et alors,
bien important.
Sur l'aspect médicaments, baclofène, groupe de parole, etc., je pense qu'il ne faut rien opposer. Il faut prendre tout ce qui est bon. Sûrement. Par contre, il ne faut pas avoir des effets induits et croire à des miracles.
On va reparler dans un instant de ce que le baclofène procure à ceux qui veulent en finir avec l'alcool. Une réaction, Marie-Pierre Jory, puisque vous avez suivi pour tourner votre documentaire Alcoolisme, la promesse du baclofène qui sera diffusé sur Arte demain. Vous avez suivi ces gens qui cherchent à arrêter de boire. Quelles leçons en tirez-vous ?
En fait, moi, je voulais revenir sur cette idée de la génétique, parce que le médicament baclofène va avec cette logique que l'alcoolisme est une maladie organique, un dysfonctionnement du cerveau. Et ça, c'est assez séduisant comme idée, parce que ça permettrait de croire qu'en utilisant ce médicament-là, on éteint un interrupteur et puis on est guéri. Et c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, moi, je l'ai vu avec les patients que j'ai suivis pour ce film, puisque nous, dans le film, on connaît les résultats des 3 participants que j'ai suivis. Et donc, à la fin du film, on sait ou pas s'ils prennent le médicament ou le placebo.
On va écouter Alain Bachung. C'est public sur France Inter, l'ivresse en détresse, alcoolis, la promesse du baclofène. Le baclofène, c'est donc ce médicament qui aujourd'hui est en phase de test. Un médicament pour lequel un homme s'est battu, Olivier Amezen. Cet homme a disparu en juillet 2013. On écoute sa voix.
Tous les jours, je regardais sur Internet, il n'y avait pas de traitement. Je les ai vus passer les uns après les autres, après les autres, après les autres. Et après, je suis tombé sur le baclofène qui m'a beaucoup plu. Pourquoi ? Suppression de l'auto-administration de la cocaïne par le baclofène. Et là, j'ai vu suppression. C'est la première fois que je voyais. Je voyais genre réduction ici, réduction là, réduction là, réduction là. Tout le monde réduisait. Eux, on dit suppression.
Après avoir essayé toutes les approches classiques de sevrage, il décide en 2002 de s'administrer lui-même du baclofène, devenant ainsi son propre cobaye. Il augmente progressivement la dose jusqu'à atteindre 270 mg par jour, près de 4 fois la dose maximale autorisée. C'est alors que le miracle se produit.
J'ai finalement, à la dose pour moi de 270 mg par jour, j'ai atteint la dose suppressive des symptômes. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu des bouteilles d'alcool, ça ne m'a plus rien fait. Et je me disais, mais c'est impossible, puisqu'on dit que cette addiction est à vie, que les stimuli font que vous allez reboire, ça ne m'a rien déclenché. J'ai cru rêver.
C'est un... L'intérêt du baclofène, tel qu'il est présenté par ses promoteurs, c'est de permettre d'arrêter d'être un alcoolique tout en continuant de boire avec modération, évidemment.
J'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que le baclofène, quand je l'ai essayé, moi, pour mes patients, je leur dis, écoutez, avec le baclofène, peut-être que vous pouvez boire, je ne sais pas. Quels sont vos objectifs ? Le patient qui me dit, mon objectif, c'est de ne plus boire parce que vraiment, c'est plus possible. Bien sûr, je ne vais pas lui dire, si, vous pouvez boire. Donc, j'accepte le fait qu'il veuille être abstinent. Il n'y a pas de problème parce qu'on m'accuse de... Bon. Enfin bref, j'ai été surpris. Et c'est là où ça m'a vraiment bluffé. C'est que les patients qui disaient, mais moi, je ne veux pas être abstinent. Moi, je veux pouvoir boire comme tout le monde. Eh bien, au bout de 3-4 mois, un certain nombre m'ont dit, vous savez, moi, je ne bois plus. J'ai plus envie, je bois plus, voilà, je suis devenu, j'ai une inappétence pour l'alcool, ou comme dit Amezen, je suis devenu indifférent. La deuxième chose que je veux dire sur le baclofène, c'est que ça a permis à un grand, grand nombre de patients de venir voir un médecin. Parce que c'est des patients qui savaient que de toute façon, on allait leur dire, il faut arrêter de boire, plus jamais une goutte de votre vie. Et ça, ces patients-là, ils préféraient ne pas l'entendre, et donc on les a vus arriver dans nos cabinets, et moi je parle en tant que généraliste, de façon assez surprenante, acceptant enfin d'avoir un traitement éventuel.
Bertrand Dalpas, qui est alcoologue.
Oui, d'abord ce que je voudrais dire, c'est qu'avant le baclofène, notre boîte à outils était tout de même déjà assez bien garnie. Et on disposait tout de même d'un certain nombre de produits. Donc le baclofène est un outil supplémentaire qui a été rajouté à la boîte. Deuxièmement, les patients, enfin les personnes qui viennent nous voir en disant « je ne veux pas complètement arrêter, je veux réduire », bon, c'est monnaie courante et on les voyait déjà. Moi, ça fait depuis 1980 que je fais de l'alcoologie.
Mais en tant que généraliste, on ne les voyait pas.
Ah, peut-être. En
c'est
tant
ça
que...
la différence.
Donc, enfin, dans les consultations hospitalières, on les voyait déjà.
Mais ils allaient en consultation hospitalière parce que c'était ciblé. Chez le généraliste, ils ne voulaient pas en parler. Ils n'en parlaient pas. Ils ne disaient pas qu'ils avaient un problème d'alcool chez les médecins généralistes. Et d'un seul coup, ils en parlaient.
Donc le baclofène a permis de libérer une parole,
oui,
et a organisé donc une alternative pour tous ceux qui veulent arrêter de boire. Thomas Chauvineau, notre reporter, a rencontré l'un de ces utilisateurs de baclofène. Il s'appelle Samuel Blaise, il est aussi le président de l'association Olivier Amezen pour l'utilisation du baclofène. Il a réussi à sortir de son alcoolisme grâce au baclofène il y a 2 ans et demi.
Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ?
Un coca, s'il vous plaît.
Un coca ?
Coca, parce que vous ne buvez plus du tout d'alcool ou...
Si, bien sûr, j'en bois toujours. Enfin, j'en bois quand l'occasion se présente. Mais là, je sors du boulot, il est un peu tôt. Coca, c'est très bien. Ça me va.
Le baclofène permet de retrouver une véritable libre arbitre, une indépendance totale vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis de son addiction.
Et je sais que si je commence à en boire un, deux, bah, je vais m'arrêter au deuxième. Parce que maintenant, bah, au deuxième ou au troisième, ça y est, l'effet éthylique qui est assez intéressant en début, à un moment donné, me plaît plus. Et puis j'arrête naturellement comme quiconque. Donc c'est un véritable traitement. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'abstinence, je ne suis plus dans le contrôle, je suis dans la liberté totale. Avant, c'était ce qu'on appelle un pharmacon. C'est-à-dire un médicament qui est à la fois un médicament et un poison. J'en avais besoin. L'alcool est un anxiolytique. Et il nous faut cette dose.
C'est comme ça que vous le preniez.
C'est plus fort. Mais oui, bien sûr. Moi, à 18h, je m'enquillais quelques bières sans réfléchir, tout seul au bar, des bières fortes, parce que ça me procurait cette relaxation, cette détente dont j'avais tellement besoin. Enfin, c'était plus fort que moi. Je savais très bien dans quel état j'allais terminer. Je savais parfaitement, en poussant la porte du bar, je savais très bien dans quel état je me réveillerais le lendemain. Je savais très bien que j'étais en train de me flinguer, mais c'était plus fort que moi.
Parce qu'à chaque fois, c'était jusqu'à l'ivresse.
Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, c'est l'ivresse. C'est au-delà de l'ivresse, oui, on se met une cartouche.
Comment vous en êtes venu à prendre du baclofène ?
Je vais tout essayer. J'avais essayé toutes les propositions pharmaceutiques. J'ai essayé des cures, les groupes de parole, les promesses, tout a échoué. Et j'étais vraiment intimement persuadé que c'était pas une question de volonté, puisque j'avais la volonté chevillée au corps. Tous les matins, c'était une horreur quand je me réveillais, je voulais arrêter, je voulais plus boire, et tous les soirs je replongeais. En 2011, j'ai eu quelques examens médicaux assez critiques. Et entre Noël et l'an 2011... en fouillant le net, ma femme aussi m'a évoqué le baclofène. J'ai envoyé des mails partout, passé des coups de fil. J'ai réussi à trouver un médecin prescripteur. Et le 6 janvier, je prenais ma première prescription de baclofène. Et le 22 janvier, donc 14 jours plus tard, j'étais à 340 mg. Et j'ai ressenti cette libération. C'est quelque chose d'indescriptible, c'est physique. C'est comme si une vieille serrure toute trouillée s'ouvrait. J'ai instantanément compris que ça y est, c'était fait. Et c'est fait depuis. J'ai plus aucun besoin. Donc chacun sa propre dose. Moi, la mienne, ça a été 340 mg, ce qui représente 34 cachets de 10 mg par jour.
Par jour, vous preniez 34 cachets ?
Oui, tout à fait. Il m'a fallu atteindre 34 comprimés de 10 mg par jour pour atteindre, moi, ma dose efficace.
Et vous continuez à en prendre ?
Oui, bien sûr. Je suis en ce moment à 140 mg, c'est-à-dire que j'ai baissé à peu près des deux tiers sur les deux dernières années, deux ans et demi. L'objectif, bien évidemment, étant d'arriver à zéro, c'est un objectif. Si je ne l'atteins pas, ça ne me gênera pas de garder une dose résiduelle à vie. Effectivement, ça valait 15, 20, 30 ou 40 cachets par jour. C'est pas facile.
Pendant combien de temps vous avez été alcoolique ?
30 ans. Pendant 30 ans, ça a duré, oui.
Le reportage de Thomas Chauvineau, il faut quand même dire que Samuel Blaise, donc cette personne interrogée sur son utilisation du baclofène, a connu d'importants effets secondaires, insomnie, endormissement la journée, une sudation excessive. Donc c'est un miracle, mais un miracle relatif comme on en connaît en médecine, Bertrand Nalpas.
Tout à fait, je crois que là on a été confronté à une forte poussée, je dirais, une forte demande, je dirais, médiatique de la part, donc, suite à la présentation, enfin, donc, à l'essai de Café MSN du baclofène.
Oui, parce qu'il avait fait beaucoup de barouf pour dire que
tout à fait,
c'était
même
vraiment
dans les congrès. Alors, moi, ma position en tant que, scientifique, je suis directeur de recherche à l'INSERM, était de dire, très bien, ce médicament peut effectivement avoir un intérêt et il ne faut pas le mettre à la porte. Néanmoins, étant donné qu'il fallait prendre des doses extrêmement importantes, semblait-il, pour obtenir un effet, moi, personnellement, je n'en ai pas prescrit de façon sauvage. Ce que j'attendais, et ce que j'attends d'ailleurs encore, c'est le résultat donc, des essais standardisés, rigoureux, tels qu'ils sont menés comme celui de Philippe Jory, ou l'autre qui est mené donc par Henri-Jean Aubin et Michel Reynaud.
Marie-Pierre Jory, vous qui avez réalisé le documentaire qui sera diffusé demain sur Arte à 22h30.
Oui, au-delà de l'efficacité prouvée ou pas du baclofène, ce que j'ai pu observer en suivant l'essai clinique du docteur Philippe Jory, c'est de voir l'importance de la relation entre le médecin et son patient. Et surtout dans le cadre d'un essai clinique, c'est des visites qui sont régulières, des visites longues. C'est pas juste un quart d'heure de rendez-vous et puis voilà, je vous donne une ordonnance et au revoir. Et à partir du moment où la personne alcoolique peut parler, se sent écoutée, a ce lien entre le médecin, c'est déjà un travail énorme au-delà du médicament. Et ça, c'est quelque chose quand même d'important. Il ne faut pas juste penser le médicament comme unique solution, mais c'est vraiment ce lien entre le médecin et le patient. Voilà.
André nous attend au 01 45 24 7000. Il nous appelle de Nantes. Bonjour André.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, André.
Moi, j'ai 68 ans et pendant 30 ans, comme le témoignage qu'on vient d'entendre, là, j'ai eu une consommation élevée d'alcool, mais qui était anxiolytique et désinhibante. Et puis, après, pendant 10 ans, alors là, c'était l'horreur, l'addiction, avec tous les problèmes de couple, les problèmes relationnels, les problèmes professionnels. Et j'ai voulu arrêter. Alors, j'ai tout essayé aussi, les médicaments, les séjours en maison, les groupes. Ça n'a pas fonctionné. Il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, j'ai réussi à trouver un prescripteur. C'était pas facile à l'époque, mais en milieu hospitalier. Et comme disait la dame là, à l'instant, bah, j'étais reçu, j'avais mon ordonnance, je venais au résultat. On me faisait pourtant l'assistante de l'auriculothérapie pendant ce temps-là, mais c'était le quart d'heure, c'était pas top. Je suis monté à 120, puis 160, et ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai arrêté de moi-même. Et puis il y a un an, j'ai trouvé une médecin alcoologue dans un centre d'alcoologie, lambda, dans un petit bled. Et là, elle m'a conseillé de recommencer. Bon, j'ai bien voulu accepter. Malgré l'échec, et cette fois-ci, alors là j'ai eu un suivi. Là je vais la voir tous les mois, j'y vais d'ailleurs avec ma femme, ce qui nous fait beaucoup de bien tous les deux, et elle, il y a eu de l'empathie, elle s'est vraiment intéressée à moi. Je ne suis monté qu'à 80 grammes, là je suis en train de redescendre, et au bout d'un mois, il y avait de l'effet. Et c'est là-dessus que je voulais insister, apporter mon témoignage.
Donc vous avez fait 2 essais, un n'a pas fonctionné, l'autre a fonctionné, et aujourd'hui... Vous allez bien, André. Merci pour ce témoignage, Philippe Jory.
Mais on voit bien l'importance de la prise en charge globale des médecins, et qu'ils soient alcoologues ou généralistes. Mais le généraliste, parmi ses compétences, c'est quand même la continuité. Il connaît le patient, il le voit depuis longtemps, il le suit, il suit la famille. Une autre compétence, c'est la globalité. Il prend en charge de façon globale. Il y a un problème de coordination. Il travaille, il peut travailler. Moi, je travaille avec les associations d'anciens buveurs. Et puis la relation, la communication. Mais c'est important, le médicament, c'est un plus.
La médecine d'aujourd'hui n'a pas le temps de faire ça. Vous voyez bien que maintenant, le médecin, il n'a pas le temps de pouvoir...
Il faut arrêter de dire ça, Si. Mais il faut prendre le temps. Et puis, Mais le temps, il est sur la continuité, il n'est pas sur une consultation obligatoirement.
Alain Calès,
moi, j'ai l'impression
vous êtes ancien buveur.
Que dans certains cas quand même... ce médicament et la prescription, c'est quelque chose qui permet aussi au médecin généraliste qui n'a pas assez de temps. Parce que le temps de l'alcoolique, c'est un temps distendu. Ce n'est pas le même temps que celui de la consultation à 10 minutes ou 12 minutes. Ça lui permet de prescrire quelque chose, donc de conserver un petit peu de son statut. Maintenant, il y a un effet bénéfique qui est effectivement que quelqu'un se dit « je suis malade et il faut que je me soigne ». J'aimerais intervenir quand même sur, peut-être court, mais ça me paraît très important, sur la double approche de pouvoir consommer de l'alcool en étant alcoolodépendant. Pour moi, c'est continuer à avancer vers la mort que de dire « je prends un médicament, je continue à boire et je suis quelqu'un de dépendant ». On ne peut pas gérer son alcool. Ce n'est pas un compte bancaire avec des crédits et des débits. Au bout, c'est la mort.
On va essayer justement de comprendre pourquoi ça pose problème et pourquoi, effectivement, il peut y avoir des critiques adressées au baclofène et d'autres manières d'arrêter de boire. Tout de suite après Nina Simone, France Inter, comment finir avec l'alcool et l'alcoolisme, un dossier préparé par Chantal Lemontagnier et Elodie Piel avec Ariane Amadi. Nous avons Néo, 01 45 24 7000. Bonjour Néo.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, je souhaitais témoigner parce que... j'ai réussi à arrêter l'alcool au travers d'une légère aide chimique, mais surtout d'une psychothérapie, et que votre émission, pour moi, sonne plus comme une publicité pour le baclofène, un peu un publi-reportage. Mm-hmm. Donc j'ai 48 ans.
On a quand même donné toutes les critiques et les effets secondaires contre ce médicament, ou en tout cas expliquer pourquoi il y avait eu polémique. Hein.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à mon expérience, je ne peux pas juger de la façon dont les autres vont pouvoir arrêter ou quoi, mais d'après moi, se dire que l'on peut continuer à consommer de l'alcool alors qu'on est alcoolodépendant, ça, pour moi, c'est de refuser de regarder la vérité en face. Il faut affronter la chose et simplement prendre les décisions qui s'imposent. Comme vous le disiez votre invité il y a juste avant le disque, on ne peut pas continuer à boire si on est alcoolodépendant. C'est simplement incompatible.
Alors, c'est pas la vie de tout le monde dans le studio. Philippe Jory, qu'est-ce que vous en pensez? Merci Déo pour votre témoignage.
D'abord, j'aimerais dire qu'il y a 6 millions de Français qui ont des problèmes avec l'alcool. Sur ces 6 millions de Français, il y a 2 millions d'alcoolodépendants. Alors, il faut aussi parler des 4 millions qui ne sont pas alcoolodépendants, qui boivent le soir à 18h, ou qui boivent à partir de 18h, ou qui boivent, par exemple, le week-end. Et pour ces patients-là, la molécule, le médicament, le baclofène, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas, le baclofène verrouille, empêche de continuer à boire. Donc ils peuvent boire un verre ou deux et ils arrêtent, ils deviennent, je veux dire qu'ils finissent pas le verre, ils finissent pas la bouteille. Et ça c'est quand même assez, c'est pour moi
c'est important pour eux.
Pour moi, mais c'est important. Il y a 4 millions de Français qui sont pas dépendants. Là on parle que des alcoolodépendants, c'est-à-dire 2 millions. Mais je continue à dire
il y a 4 millions de Français selon vous qui boivent de trop,
oui,
Alain
Calef. Tout à fait et qui meurent. Et tout à fait.
Oui, alors, si quelqu'un n'est pas alcoolodépendant et continue à boire, vraiment, nous, on a absolument rien à dire s'il n'est pas alcoolodépendant.
Mais si, c'est
maintenant,
une consommation
maintenant, les alcoolodépendants, il y a 2 millions d'alcoolodépendants, ça fait tous les ans 46 000 morts. Donc, il faut effectivement mettre en place quelque chose qui éradique ce fléau.
Moi, je voudrais dire qu'il y a même, avec tous ces témoignages qu'on a, on est face à une grande variété de patients.
Oui.
Il y a des alcoolodépendants, il y a des moins dépendants, etc. Pour rebondir sur ce que disait Philippe Jury, je crois que ça pose une question fondamentale qu'on a avec d'autres, je dirais, problèmes de santé publique. Prenez par exemple les hypercholestérolémies qui sont liées à un surpoids. Donc on peut effectivement être traité par un hypocholestérolémiant plutôt que de faire le régime nécessaire pour perdre quelques kilos. Et qui permettrait de ne pas prendre de médicaments. Là, on est un petit peu dans le même registre, parce que ce qui a été souligné par les témoignages et par Philippe Jory et par le reportage de Marie-Pierre Jury, c'est que ce qui compte, avant tout, avant même le médicament, c'est la relation entre le médecin et son patient.
Le soignant.
Effectivement,
on a
insisté là-dessus. Il y a beaucoup de questions sur Internet, notamment des auditeurs qui nous demandent si le baclofène pourrait être efficace contre d'autres types d'addictions, contre le tabac, contre les drogues. Avez-vous un avis là-dessus, Bertrand Alpas?
Il y a des publications relatives donc au tabac ou à la cocaïne, etc.
Mais sur la cocaïne, Olivier Amezen l'évoquait tout à l'heure.
Donc on n'a pas de résultats probants parce qu'il n'y a pas d'essais avec de dimensions, je dirais, suffisantes qui aient été réalisées jusqu'alors. Et pour l'instant, donc l'indication, c'est l'alcool.
Eric est au 01 45 24 7000. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui.
Nous écoutons votre témoignage.
Voilà, donc je suis actuellement en traitement pour mon alcool, pour mes problèmes d'alcool. Et on ne m'a pas prescrit le baclofène parce qu'il y avait beaucoup d'inconvénients. Donc une prise difficile, il y a un auditeur qui parlait de 34 pilules par jour, donc c'est absolument énorme. Mm-hmm. Et en plus, au niveau conduite et machine-outil dans un atelier, ça posait visiblement des problèmes. Et, le traitement doit être non-stop. Donc on m'a prescrit un nouveau médicament, une molécule, le Solingro, par un laboratoire danois. Et donc c'est une seule prise par jour et elle n'est pas obligatoire. Donc en fonction de son activité ou de la prise du danger dans lequel on est, on le prend ou on le prend pas. On le gère un peu à sa guise. Voilà. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ce médicament et je me permets de préciser son prix parce que malgré tout ces choses-là ont un peu d'importance. Donc c'est 50 euros pour 15 jours, un mois de traitement. Et c'est une vignette bleue. Donc ça doit être remboursé à, je ne suis plus sûr, mais 70%, quelque chose comme
35.
Ça.
35.
35%. Voilà. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une partie du prix de ce médicament qui demeure à la charge du patient. Est-il efficace, selon vous, Bertrand Alpas, le Selincro? C'est une variante du baclofène?
Non, pas du tout. Non, le Selincro, c'est du nalmefène. Donc en fait, c'est, ça agit sur les récepteurs opioïdes. C'est un petit peu comme on a déjà un produit disponible qui s'appelle la naltrexone, qui est commercialisé sous le nom de Revia. Sauf que là, l'almefène agit sur une autre variété de récepteurs.
Donc ça, c'est une alternative au baclofène. Quelles sont ses qualités ?
Non, c'est pas du tout. C'est-à-dire que
au traitement contre l'alcoolisme.
Le point commun, c'est que dans les indications, ça autorise à boire. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une régulation de la consommation.
Et si vous deviez donner les mérites comparés des deux méthodes, que diriez-vous, Bertrand Nalpas ?
D'abord, il faudrait les comparer. Dans un premier temps, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour de comparaison entre baclofène et nalmefène. Le nalmefène vient d'être mis sur le marché, donc, et d'ailleurs avec un protocole de surveillance donc, que la NSM, donc l'agence du médicament, donc, a obligé. Donc on attend un petit peu les retours.
Patrick est au standard. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Rennes.
Oui, je vous appelle de Rennes. Juste... deux remarques. Alors, si je bégaye, c'est justement à cause du baclofène, parce que donc j'en prends depuis 3 ans. Je tiens à préciser hors protocole.
D'accord.
Et donc, c'est les effets.
Donc, des effets secondaires du baclofène. Il y aurait le bégaiement.
La somnolence, comme disait donc votre auditeur donc, tout à l'heure. Et il y en a plus que ça. Il y a les muscles. Puisque c'est un. Alors. Je parle sous l'autorité donc des médecins. Alors, je ne sais plus. C'était un médicament pour la sclérose en plâtre, il me semble.
Et donc, pour vous, il y a aujourd'hui trop d'effets secondaires. Malgré tout, vous continuez à prendre du baclofène parce que celui-ci vous a permis, j'imagine, Patrick, d'en finir avec l'alcool.
Non, je ne veux pas en finir avec l'alcool.
Bah, avec votre alcoolisme, en tout cas.
Non, c'est plus, je dirais, donc la maîtrise. Mais bon, j'ai fait donc plusieurs séjours, mais je remarque que j'ai écouté donc votre émission. C'est mon médecin donc généraliste que je connais depuis 20 ans qui m'a donc indiqué cette molécule, si vous voulez.
Merci Patrick pour ce témoignage des effets secondaires tels que le bégaiement, Philippe Jory, est donc une somnolence.
Écoutez, il y a des effets secondaires, c'est indéniable, mais je trouve, moi, personnellement, qu'il y en a beaucoup moins que l'alcool.
Voilà. Effectivement, on peut imaginer que les effets secondaires de l'alcool sont les plus importants. Alain Calès, en dehors des médicaments, il y a des groupes de parole qui donnent des succès et des réussites. Vous représentez ici le mouvement laïque d'entraide d'anciens buveurs et c'est aussi une méthode qui a fait ses preuves.
Je crois qu'il ne faut pas comparer et opposer les choses. Toute méthode qui permet d'arrêter est bonne à prendre, quelle qu'elle soit. Moi, alors là, on n'a aucun état d'âme, aucun mouvement n'a un état d'âme. On voit dans nos groupes de parole des gens qui sont avec baclofène, d'autres qui sont sans. Certains s'arrêtent, certains s'arrêtent pas. C'est tout, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous donner une vérité profonde. En tout cas, continuer, quand on est alcoolo-dépendant, continuer à picoler, c'est la mort au bout.
Conclusion, Marie-Pierre, j'aurais un mot.
Alors, c'est curieux parce que moi, quand je dis dans mon entourage que j'ai fait un film sur le baclofène, la première question, c'est « Alors, le baclofène, ça marche ou pas ?» Et ça laisse pas beaucoup de possibilités de réponse. C'est oui ou non. Alors, je vous conseille vivement de regarder le documentaire Demain sur Arte pour ne pas
avoir...
Ah, vous
savez faire du teasing, hein, vous. Oui. Ah, vous êtes maligne.
Mais
et
pas
vous
pour
êtes
avoir
demain
une
à
réponse.
22h20.
Voilà, demain 22h20.
Vendredi sur Arte, votre documentaire.
Et vous aurez plein de réponses dans ce film.
Oui, plein de réponses.
Plein de réponses, c'est pas une réponse.
Merci à tous les quatre d'avoir été là ce matin pour essayer de comprendre ce que cette molécule, le baclofène, pouvait apporter à ceux qui voulaient en finir avec leur alcoolisme. Tout de suite après.